Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Al Public, Invivox et son fondateur Julien Delpech, et Mstaff avec son cofondateur Édouard Dounet-Alexandre. Les startups, notamment en santé, ont souvent recours à des investisseurs pour leur développement et leur maintien en activité. Frédéric Sutherlin, venture partner chez Alpha Blue Ocean, nous parlera des solutions de financement alternatifs. Check-up Santé, la seule émission start-up du PAF, c'est parti. Enguerrand Abram, bonjour.
Bonjour.
Julien Delpech, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors Enguerrand, bonjour, vous dirigez donc le fonds de recherche innovation à la FHF, Fédération Hospitalière de France. Vous avez une pêche d'enfer, hein, on le sait. Et il en faut pour changer les mentalités à l'hôpital. Vous êtes spécialiste en biotechnologie et en sciences du génome. Vous êtes féru d'intelligence tout court, mais d'intelligence artificielle aussi. Et vous êtes project leader au célèbre MIT.
Ancien.
La FHF, d'abord, c'est combien d'établissements santé ?
Alors, la FHF, c'est 1000 établissements et 3800 établissements médico-sociaux.
Oui, et donc vous dirigez donc ce fonds.
Ouais.
Quelle est sa mission ?
Alors, le fonds, il a été créé en 2014, j'en ai pris la direction en 2016. Et ses quatre missions, c'est l'accompagnement des projets innovants, la promotion de l'innovation, donc mettre en avant les innovations et mettre en avant la culture de l'innovation pour qu'elle se déploie au sein des établissements. C'est aussi le management du changement, donc accompagner l'hôpital public sur ses grandes transformations, la transformation digitale, l'expérience patient, la médecine de précision, tous ces sujets-là. Et puis, la dernière, c'est la formation des agents et notamment la formation aux méthodes d'innovation.
Alors, avant vous, avant votre arrivée, donc l'hôpital considérait les startups comme des ovnis ?
Non, il y a un peu de tout. Hein. Il n'y a pas un hôpital public. Hein. Il y en a des milliers. Et je pense qu'ils sont un peu tous différents. Mais c'est vrai qu'il y avait et qu'il y a encore des réticences, souvent par la méconnaissance, parce que dans le guide Hospi-Up qu'on vient présenter aujourd'hui. Et une statistique qui est intéressante, c'est que tous les établissements qui ont travaillé avec une start-up, 100% recommenceraient volontiers.
Alors, Julien Delpech, vous dirigez Invivox, vous êtes déjà venu dans l'émission. Une ou deux fois, je crois même. Hein.
Exactement, j'ai eu ce plaisir.
Bon, un habitué. Donc, vous dirigez Invivox, un petit pitch sur votre entreprise.
Alors, très simplement, Invivox, c'est une plateforme qui permet à tous les professionnels de santé de partager leurs connaissances, leur expertise, avec d'autres professionnels de santé. Mmh. Deux chiffres pour résumer peut-être l'année extraordinaire qu'on vient de vivre. En 2019, où on faisait...
Extraordinaire et particulière.
Ah mais ouais. Inédite, à tout point de vue. En 2019, on faisait la formation présentielle, on a formé 3900 professionnels de santé. En 2020, on est passé au distanciel, forcément. 44 000 professionnels de santé se sont formés sur Invivox.
D'accord, le présentiel peut revenir peut-être après la fin de la guerre.
Il reviendra.
Ouais.
J'espère.
On espère, bien sûr. Mais c'est vrai que ça reste maintenant complémentaire, les deux.
Exactement, ça permet en fait de créer des formations hybrides et complémentaires.
Alors, quand vous avez créé votre entreprise, vous avez dû à un moment donné être au contact de l'hôpital public, notamment la Fédération Hospitalière de France, l'hôpital public. Ça a été un parcours du combattant ou pas ?
Alors, ça a été effectivement un parcours semé
d'embûches. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, vous participez à ce Hospi-Up. Hein.
Exactement. Oui. En fait, il a fallu trouver une langue commune. Mm-hmm. Et la difficulté, c'est que souvent, en fait, on n'avait pas cette langue commune aujourd'hui. Et le guide Hospi-Up, justement, il vient créer cette passerelle. Hein, il a réinventé l'espéranto pour qu'on puisse mieux comprendre les attentes d'un côté des hôpitaux et aussi pour que les hôpitaux puissent mieux comprendre peut-être l'environnement dans lequel on évolue.
Alors justement, Enguerrand, donc vous créez donc ce Hospi-Up, donc ouais. pour lequel vous travaillez depuis 2 ans.
Ouais.
Vous le lancez cette semaine. Ouais. Donc Hospi-Up, c'est quoi ? C'est le...
Alors l'objectif, en fait, il est double. C'est vraiment un guide à double entrée. C'est je suis un établissement. Comment je peux m'organiser pour travailler avec les startups ? Et déjà, comment je peux comprendre ce que c'est qu'une startup, son écosystème, ses business models, toutes ces choses-là. Et puis l'autre entrée, c'est je suis une startup. Comment je peux travailler avec les établissements ? Comment ils sont organisés ? Quels sont aussi leurs modes de financement ?
À qui je peux m'adresser ?
Voilà, à qui je peux m'adresser ?
Ouais.
Ça, par exemple, c'est extrêmement intéressant. C'est un exemple extrêmement intéressant. Et ça a été des discussions vraiment passionnantes. Il y a plein de startups qui se disent ma solution, elle est en SaaS. Donc elle est disponible sur Internet, donc j'ai pas besoin de m'interconnecter au système d'information de l'hôpital. Donc dans l'hôpital, je ne vais pas voir le DSI parce que ça va être une perte de temps. Sauf que dans la mentalité des hospitaliers, le DSI, c'est pas uniquement le directeur des systèmes d'information, c'est le directeur des sujets numériques. Et donc si ma start-up est une start-up digitale, pour l'hôpital, il faut aller voir le DSI. Et en fait, les DSI hospitaliers appellent ça des shadow projects, c'est-à-dire des start-up qui ne vont pas les voir et qu'ils rencontrent au tout dernier moment, au moment de contractualiser ou des choses comme ça et tout. Et c'est quelque chose qui n'apprécie pas énormément. Et puis, c'est la même chose, en fait, sur la direction des achats, par exemple. Beaucoup de start-up vont voir leurs futurs utilisateurs. Et elles ont raison, mais il faut mettre d'autres gens dans la boucle. Parce que quand je vais voir mon futur utilisateur, est-ce que c'est mon utilisateur qui, à la fin, va signer le chèque pour qu'on se dote de ma solution? Non, c'est le directeur des achats. Et quand je le mets pas dans la boucle, c'est pareil, il arrive au tout dernier moment. Donc et en fin de compte, j'avais pratiquement fait tout le travail, et puis il y a deux nouveaux acteurs indispensables qui arrivent et qui vont reprendre tout le dossier, et je perds du temps. Et qui plus est, il y a des mécanismes extrêmement intéressants d'achat public dédiés à l'innovation. Si je ne les ai pas activés dès le départ, je ne peux pas en bénéficier. Mm-hmm. Donc tout ça, c'était vraiment, comme Julien l'a dit, il y a des langues différentes, des cultures différentes. Et l'objectif, c'était vraiment d'expliquer à chacun comment il fonctionne. Mais également, par exemple, d'expliquer aux hôpitaux, une start-up, c'est très innovant, ça va très vite et tout ça. Oui, c'est fragile, mais c'est pas parce que c'est fragile qu'il faut pas travailler avec. Il faut justement prendre en compte sa fragilité.
Donc ce guide, vous l'avez élaboré en collaboration avec pas mal de start-up?
Ouais, alors il y a 10 start-up qu'on travaille.
Dont InVivox.
Et puis M-Staff que vous allez recevoir tout à l'heure. Donc il y a 10 start-up qu'on travaille de manière qualitative pendant 2 ans. Donc ça a été beaucoup de réunions, d'échanges, de relectures, de propositions, de nous conseiller sur l'information qu'il devait y avoir, comment la présenter, enfin toutes ces choses-là. Il y a également eu BPI France, l'incubateur de TechCare, donc de Paris Enco, et puis le MIPI qui est un groupement d'intérêt public hospitalier. Et puis de l'autre côté, il y a aussi eu 12 établissements, des agences régionales de santé, les centrales d'achat hospitalières. Et donc tous ces gens-là ont travaillé de manière qualitative. Et puis après, on a rajouté là-dessus une couche de quantitatif et on a interrogé donc sur tous les échanges qu'on a eus, on a interrogé 140 établissements et 120 start-up.
Ah oui. Donc, Julien, vous avez fait profiter donc votre expérience de start-up pour l'élaboration de ce guide. Qu'est-ce que vous avez proposé, vous, en tant que start-up?
Alors, j'en ai fait profiter, puis j'en ai énormément profité, puisque le fonds FHF...
Mais il y avait des idées, des conseils que vous avez peut-être pu apporter au monde hospitalier?
Alors, il y a des idées, forcément. Oui. Après, je pense que le plus important, c'était de se comprendre. Nous, dans les startups, on est des gens pressés. Dans l'hôpital, ils sont pressés
légère
à leur
inertie,
manière. C'est pas une question d'inertie, c'est plus une question de procédure. Donc, il a fallu aussi se comprendre en disant, OK, quelles sont vos procédures, quelles sont les nôtres? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller vite? Parce que, justement, vous en avez parlé, on a des fonds, on a une trésorerie, on a besoin de démontrer que nos solutions avancent. Et donc, ce qu'on a proposé, nous, pour travailler, déjà, c'est de comprendre comment nous on fonctionnait, avant de comprendre comment fonctionnaient. Vous voyez, par exemple, les centrales d'achat, Enguerrand vient d'en parler, Enguerrand avait monté une réunion avec les centrales d'achat. Quand vous arrivez dans un hôpital et que vous dites que vous êtes référencé dans une centrale d'achat, vous cochez la première case. Et tout à coup, là, l'hôpital se dit, OK, ils comprennent comment fonctionne un hôpital. Asseyez-vous, monsieur, et puis on va parler déjà parce que vous avez validé la première étape. Donc il y a plein de choses comme ça, très pratiques, qui permettent de mieux se comprendre.
Alors, Enguerrand, donc, est-ce que ce guide, il va permettre évidemment d'avoir des idées sur la collaboration entre l'hôpital et les startups, c'est aussi une base de données ou pas?
Oui. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait, alors on a caricaturé ça, mais je pense que ça résume quand même relativement bien les choses. Il y a trois types de startups. Il y a la startup qui a du savoir-faire et du faire-savoir. Donc elle fait des choses très bien et tout le monde le sait. Il y a une start-up qui a dû faire savoir mais qui a des petits problèmes de communication parce qu'elle est concentrée sur son produit et donc elle a un super truc mais personne ne le connaît, donc c'est dommage.
C'est dommage.
Et puis il y a celle qui passe son temps à communiquer et qui devrait un peu plus travailler sur son produit. Et donc pour favoriser les deux premières qui sont les deux plus intéressantes, il y avait besoin de créer un outil pour permettre d'apporter de la visibilité. Et donc en plus du guide, il y a deux autres parties. Il y a une partie sur des programmes d'accélération, donc corporate ou pas. Et puis il y a une base de données qui est implémentable par les innovateurs et consultable par les hospitaliers. Et donc je peux venir m'inscrire, décrire mes fonctions, enfin mes solutions pardon. Et puis n'importe quel hospitalier public avec son email de son établissement, peut se créer un compte et a accès à une base de données avec, on l'espère, futurement, beaucoup de startups.
Et donc, on incite les startups à s'inscrire sur Hospiop.
Voilà.
Donc, il y a un site internet, il y a une adresse.
Hospiop.fr. hospiup.fr.
Oui, et non pas HUB, parce qu'on pourrait penser à Hub comme...
Hospi-Hub, ouais.
Donc c'est Hospi-Hub.
Hospi-Hub, ouais.
Très rapidement de conclusion, vous avez 10 secondes, Julien.
C'est ultra pragmatique pour un hôpital qui cherche une solution avec un mot-clé. Il va trouver toutes les solutions qui sont proposées par les startups et là, il vient faire son marché.
Génial, génial. Vraiment, on souhaite une bonne chance à Hospi-Hub. Merci, Enguerrand Abrant. Merci, Julien Delpech. On va justement accueillir une start-up qui, elle aussi, apporte ses compétences à l'hôpital et son fondateur, Édouard Dounet-Alexandre.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Édouard Alexandre Dounet, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez fondé MedicStaff en 2016, mais le vrai départ, ça a été, vous me disiez, en 2018. Et vous avez cofondé avec votre associé Rodolphe Pumeau, vous êtes passé par ESCP Business School, et vous avez longtemps travaillé dans un groupe de cliniques privées. Vous êtes vraiment le témoin de la collaboration active entre le monde de l'hôpital et des startups.
Oui, tout à fait. En fait, nous, on a, lorsqu'on a fondé MedicStaff, ça a été un projet d'abord en interne. Donc, la start-up, elle est née comme ça. Donc, en fait, forcément, c'est le fondement même du projet. Donc, nous, on a, lorsqu'on a lancé MedicStaff, l'idée, c'était vraiment de répondre aux enjeux d'efficience RH et surtout de recrutement dans les établissements de santé. Et donc, on a proposé un logiciel de gestion de recrutement et de mobilité adapté à la complexité hospitalière.
Voilà. Alors justement, donc vous proposez MedicStaff, qui est une solution logicielle de recrutement pour les services hospitaliers. Ce n'est pas une plateforme de mise en relation.
Alors non, c'est pas une plateforme de mise en relation. C'est bien un logiciel qui va donc s'implanter dans le système d'information d'un hôpital ou d'un établissement de santé et qui va permettre donc de fluidifier et d'amener de la coordination entre les directions des ressources humaines et les directions métiers et en particulier la direction des soins.
Donc dans quel but précisément? Donc de...
Alors le but ça va être vraiment déjà
de recruter.
Alors oui, de recruter, mais aussi de supprimer des coûts cachés existants à l'hôpital. D'accord. Parce qu'il y a peu de coordination aujourd'hui à l'hôpital entre donc encore une fois la direction des ressources humaines et les directions métiers par manque de temps, par aussi manque d'outils.
Bien sûr.
Et donc nous on amène aujourd'hui ces réponses et on fait aussi lumière, on va dire, sur tout. Toute la valeur aussi que peut proposer un établissement par le biais donc de sites carrière qui est le deuxième pendant donc de
alors on a dit juste avant avec Enguerrand Abrant que vous aviez aussi participé à l'élaboration de Hospi-Hub. Pour vous, ça a été aussi difficile de percer la carapace de l'hôpital ou pas?
Alors oui, ça a été un vrai défi. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir un réseau bienveillant justement avec Enguerrand qui nous a présenté donc par le biais d'un premier cercle, donc d'abord d'autres startups, donc qui ont pu nous inspirer, qui nous ont donné des contacts, et puis aussi le reste de l'écosystème, donc à savoir par exemple les centrales d'achat, qui sont essentielles aujourd'hui pour entrer à l'hôpital, et donc aujourd'hui on a cette chance-là d'être référencé à l'UGAP et au RESA.
Et vous travaillez déjà avec pas mal d'hôpitaux.
Et on travaille aujourd'hui avec pas mal d'hôpitaux, donc on a eu une deuxième chance, ça a été de pouvoir co-construire notre solution avec le CHRU de Tours, mais aussi des établissements, d'autres centres hospitaliers comme le centre hospitalier d'Avignon, le centre hospitalier de Mayotte ou le CHU de La Réunion, et aussi sur le médico-social, parce que c'est pas que les hôpitaux, c'est aussi les établissements de santé médico-sociaux avec typiquement la DAPI.
Donc vous avez une deuxième aussi fonction de votre entreprise, c'est aussi de peut-être d'améliorer l'attractivité donc de l'hôpital.
Tout à fait. Voilà, c'est vraiment notre mission et c'est en ça qu'on a eu la chance d'être lauréat cette année donc des trophées innovation Santé Expo dans la catégorie RH. Et l'idée donc d'MedicStaff, c'est d'apporter donc une proposition de valeur globale. Donc d'abord le logiciel dont on vient de parler et puis sur la partie attractivité proposer aussi un site carrière. Moderne, intuitif pour le candidat.
Presque un boulot d'agence de com.
Ouais, presque un boulot d'agence de com. D'ailleurs, on a une petite équipe de production aujourd'hui qui
réalise des vidéos,
qui crée du contenu vidéo qu'on affiche ensuite sur et le site carrière des établissements et aussi sur leurs réseaux sociaux.
D'accord. Une évolution sur l'Europe.
Alors, une évolution sur l'Europe, on l'espère. On est pour parler avec de nombreux partenaires à ces sujets. Mais d'abord, on va se concentrer sur la France. Ouais. Et l'idée, c'est déjà d'équiper la majorité des centres hospitaliers.
Il n'y a pas de conflit avec les cabinets de recrutement classiques, non?
Alors, pour le moment, non, parce qu'on est peut-être encore un peu trop petit. Mais l'idée, effectivement, ça va être de créer à terme le plus grand vivier de professionnels de santé européens. Donc on verra.
Donc là aussi une énorme base de données. Donc voilà, une énorme base de données. Aussi bien pour ceux qui sont demandeurs que ceux qui sollicitent des emplois, c'est ça?
Oui, tout à fait. En fait, ouais. L'idée, ça va être d'avoir dans cette gestion de base de données, ça va être d'avoir surtout des compétences identifiées sur chaque corps de métier et du coup, donner l'opportunité aux établissements de santé de recruter la ressource adaptée.
Très bien. Donc, on rappelle, donc MSAF, qui est une solution logicielle de recrutement, c'est ça?
Et pour de mobilité, voilà.
Et de mobilité pour les services hospitaliers.
Tout à fait.
Merci beaucoup. Donc, bonne chance
à
MSAF et à Medistaff, qui est la maison mère.
Exactement.
Merci beaucoup. Merci, Edouard Alexandre Dounet. Avant notre dernier invité, place à l'incontournable Olivier Robichon, directeur de la revue Prescription Santé.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé.
Olivier Robichon, bonjour.
Bonjour, Fabien.
Alors, quels sont, Olivier, les secteurs de l'économie, dans le monde évidemment de la pharma, qui ont le plus souffert en 2020?
Alors, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la pharma, voilà, un virus dans les rues, la pharma va exploser, voir son chiffre d'affaires exploser. En fait, c'est pas vrai. Il y a eu des labos qui ont vraiment souffert. D'abord parce qu'on sait qu'il y a plein de pathologies qui n'ont pas été prises en charge. On sait qu'il y a un nombre de cancers impressionnant qui n'ont pas été pris en charge.
Retard du diagnostic, retard de traitement, bien sûr.
Et on risque de le payer très cher. Il y a des gros labos comme Roche, par exemple, qui s'en ressentent d'ores et déjà. Et puis, il y a une catégorie d'acteurs qui a franchement souffert. Eh bien, ce sont les laboratoires de médicaments vendus sans ordonnance. Enfin, vous savez, ces produits qu'on appelle OTC, Over the Counter. C'est parfois des gros labos, hein. C'est pas des toutes petites entreprises. C'est Bayer, Sanofi, GSK, UPSA, Ipsen. Ça, c'est des acteurs de ce marché-là. Mm-hmm. Et le syndicat qui s'appelle l'AFIPA, qui regroupe les acteurs de ce marché-là, a publié ses chiffres cette semaine, il y a quelques jours.
Et donc, c'est pas génial.
Ah, c'est vraiment presque catastrophique. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même des produits en libre accès dans les ordonnances. Je parle aux médecins que vous êtes, Fabien. Des produits qui ont naturellement profité de cette crise, entre guillemets. Et par exemple,
les thermomètres.
Et voilà, tout ce qu'on appelle l'autodiagnostic, ça a été une explosion absolue. 86% de progression sur un an. Le problème, c'est que, faire attention, on n'achète pas un nouveau thermomètre tous les ans non plus. De leur côté, il y a un autre secteur qui a bien fonctionné, c'est les compléments alimentaires. Certains, en tout cas, ceux qui promettaient un système immunitaire, des effets sur le système immunitaire, plus 25%. Et puis ceux qui disaient avoir un effet sur le stress ou le sommeil, je dis disaient parce que, plus 8%. Tous ceux qui sont vendus en pharmacie, bien sûr. Les compléments alimentaires, c'est important, c'est 950 millions d'euros.
Ah oui, c'est presque un milliard d'euros.
Et là, on parle que de ceux qui sont en pharmacie.
Donc les chiffres sont plutôt bons.
Alors pour ceux.
Très bons même.
Pour ceux-là, c'est vrai. C'est pas très mauvais. Mais par contre, il y a une catégorie qui a vraiment pris cher, on va dire. Ce sont les médicaments d'automédication. Et pour une raison toute simple, mon cher Fabien, c'est que les gestes barrières, ça fonctionne. Résultat des courses, il y a des pathologies qu'on trouve habituellement qui n'existent plus cette année. Résultat, je lis, moins 30%, c'est-à-dire 300 millions d'euros pour les médicaments sur les atteintes des voies respiratoires. Et puis plus de câlins. Plus de gastro, ça c'est
on
connaît bien, voilà. Donc 280 millions d'euros et une baisse de 10% pour les médicaments dits de confort digestif, on reste poli. Et puis il n'y a pas que l'efficacité des gestes barrières qui compte, il y a aussi le nombre de personnes, le trafic en pharmacie. Alors les grosses pharmacies des centres commerciaux ont souffert. Les petites pharmacies ont elles un peu moins souffert. Reste que ce secteur des médicaments de communication a quand même
moins, bien sûr.
Moins 10% et 1,8 milliard d'euros sur l'année.
Ouais, c'est vrai que la France n'a jamais été très portée sur l'automédication.
Et c'est vrai.
Rapidement.
C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on aime beaucoup. C'est 10-12% du marché des médicaments en France. C'est 25% dans les marchés européens, nord-européens surtout. Et où il y a plus de produits qui sont accessibles sans ordonnance.
Alors le drame, c'est l'ibuprofène.
C'est pas un drame, c'est un scandale. Et j'assume le terme. Vous vous souvenez que dès les premiers jours de la crise, on a entendu dire que l'ibuprofène, pendant le Covid, c'était dangereux. La HAS a relayé, la Haute Autorité de Santé. Et le ministre a pris ça dans un de ses tweets, perso, en disant, pas d'ibuprofène. Ce problème, c'est que l'information, on ne sait pas d'où elle vient. Elle n'a été relayée qu'en France. Résultat des courses, personne ne s'est démenti. Moins 33% pour l'ibuprofène. Il y a même des emplois qui ont été menacés à cause de ça. C'est une espèce de hydroxychloroquine à l'envers.
Merci Olivier Robichon, merci beaucoup.
Vous en prie, mon cher Fabien.
On se revoit la semaine prochaine. On va à présent accueillir Frédéric Sutterlin de chez Alpha Blue Ocean.
BFM Business, check-up santé au cœur de l'innovation santé.
Frédéric Sutterlin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes partenaire chez Alpha Blue Ocean, pas mal comme nom, j'aime beaucoup, ça sonne bien, dont vous représentez la France, c'est ça?
Essentiellement, oui.
essentiellement un petit peu même
on a plutôt évidemment tendance à accroître notre domaine de compétences, donc tous les pays un peu limitrophes et l'Europe occidentale en priorité, c'est la feuille de route.
D'accord. Vous avez bossé 20 ans dans la banque ?
Alors 20 ans chez Société Générale, après je les ai quittés en mi 2019, donc j'ai rejoint Alpha Blue Ocean il y a 18 mois.
D'accord.
Je suis ravi, une équipe très dynamique, très performante.
Donc ABO, Alpha Blue Ocean.
Exactement.
C'est une family office, c'est ça, donc
C'est un family office, donc c'est un fonds d'investissement fermé, qui a vocation donc à investir et à financer les secteurs qui sont mal adressés par les agents traditionnels comme les banques, les établissements de crédit ou autres intervenants. Donc on se substitue aux banquiers pour pouvoir financer.
On va y revenir. Est-ce que les investissements en 2020, ça a été une année particulière, est-ce que les investissements ont perduré quand même pendant l'année 2020?
Alors oui, on n'a pas fait d'erreur, mais on a sans doute sous-estimé le fait que l'État français allait mettre sous perfusion massive différents secteurs d'activité, dont ceux où on est assez présent. Donc je pense qu'en fait, on a juste un peu décalé dans le temps le pic d'activité, sans doute à cette année ou peut-être l'année prochaine, mais on a fait quand même quelques beaux dossiers. On a financé AB Science à hauteur de 60 millions d'euros, Heritech Pharma à hauteur de 60 millions d'euros, Safe Orthopedics qui a à l'annonce du financement avec nous a fait un bond en bourse phénoménal. On vient participer à l'introduction de Ferricides. Donc il y a eu quand même beaucoup de dossiers. On aurait pu faire toujours plus.
Et pourtant, vous investissez dans différents univers, notamment évidemment la santé. Pourtant, vous n'êtes pas un professionnel de santé. Qui vous dit que telle boîte de santé va marcher, va pas marcher? Alors, est-ce que vous êtes aidé par des professionnels de santé?
J'ai pas du tout une formation de médecine, mais bon, ça fait quand même une dizaine d'années que je travaille sur ce secteur-là. Et en fait, tout ce qui est bio, med, clean tech, c'est un peu des secteurs captifs parce que c'est malheureusement des sociétés qui sont en permanence en recherche de financement parce qu'il faut financer la montée en puissance d'une phase clinique ou le développement commercial d'un produit dans la medtech. Et les banquiers partent en courant parce qu'ils financent plus ce type de risque. Ils veulent du rendement sans risque.
Mais est-ce que vous faites aider par des professionnels de santé ou pas?
On a recruté récemment Hervé de Kerouane qui nous a rejoint et donc qui a une très belle notoriété dans le secteur. Après, on se fait
C'est votre feeling,
Non, c'est pas notre feeling, c'est qu'on travaille les éléments, on se fait conseiller peut-être par des intervenants extérieurs, mais on n'a pas besoin d'avoir une connaissance très fine du risque qu'on appelle le risque de contrepartie, donc vraiment la partie médicale de la société, parce qu'on va faire, nous, on va prendre un risque de marché. Donc ce qui nous intéresse, comme aujourd'hui on n'intervient que sur des sociétés cotées, peut-être qu'à l'avenir on sera sur du non-coté, mais aujourd'hui on fait que du coté, en fait les paramètres de marché nous renseignent sur le risque qu'on est capable de prendre. Donc il faut qu'on comprenne quand même parce que on sait qu'AB Science est dans telle ou telle molécule pour adresser telle ou telle maladie orpheline, pareil pour Ferricides ou les autres, mais on n'a pas besoin de comprendre avec précision le domaine d'intervention.
D'accord. Votre particularité, c'est que, parler de solutions de financement alternatives, donc vous financez que les boîtes qui sont déjà cotées en bourse.
Oui.
D'accord. Et en fait, vous dites que la différence avec les banques, c'est que vous prenez des risques, alors que les banques ne veulent plus en prendre.
Les banques, déjà, un, ne veulent plus en prendre, et deux, en fait, la montée en puissance de la réglementation des établissements de crédit par la CPR notamment, qui date depuis quasiment 2008, on est crise de Lehman Brothers et crise de subprime, fait que, en fait, ce type de risque, comme c'est très risqué et encadré, et il y a un coût de fonds propre en interne qui est très élevé. Donc les banques, en fait, se disent, il n'y a pas 36 000 opérations par an, on préfère faire un write-off et arrêter ce type de financement, plutôt que de faire quelques petites opérations et qui vont nous coûter très cher en interne. Donc en fait, elles ont laissé le champ à des intervenants comme nous dans
la finance. Les banques aussi,
il n'y a plus aucune banque qui sont présentes sur ce
type. Peut-être aussi parce que les banques ont beaucoup prêté avec les PGE, peut-être, non? Ou alors,
c'est pas très risqué pour le coup. Là, elles sont contre-garanties à 90% pour les BPI. Là, pour le coup, c'est un peu du rendement sans risque. Mais c'est vraiment du financement capital. Donc les banques, en fait, malheureusement, n'aiment plus trop ça.
Donc vous rentrez, en fait, vous financez donc des boîtes. Vous entrez dans leur capital, c'est ça?
Alors, il y a différents moyens de financement. Le gros avantage d'être un fonds assez flexible comme ABO, c'est qu'en fait, on écoute les besoins de nos clients. On n'a pas de solution toute faite, ABC, tamponnée, ou autre que ça. En fait, on écoute leurs besoins, on écoute la séquence de ces besoins, parce que dans le milieu médical, on n'a pas besoin d'un financement upfront. Il faut séquencer ce financement-là en fonction de la montée en puissance des besoins et la montée des phases cliniques, par exemple.
Donc vous aidez un petit peu les sociétés à se maintenir dans le temps.
Exactement,
c'est ça,
à financer dans la durée. On n'est pas là juste à un moment de raison où on récupère du capital, on vend les actions et on disparaît aussi vite qu'on y est arrivé. On est là dans la durée, pour vraiment accompagner
les sociétés. L'exemple avec AB Science, vous avez ainsi et combien de...
Alors AB Science, on a mis pour l'instant en place un financement de l'ordre de 60 millions d'euros.
D'accord.
Qui est appelé à leur main quand ils en ont besoin. Pour l'instant, comme c'est très récent, ils n'ont pas encore appelé parce qu'ils ont suffisamment de trésorerie et de visibilité à horizon, je pense, 8-12 mois facilement. Donc ils ont la possibilité de venir
Sinon,
me chercher quand ils veulent.
Ça serait par exemple 6 millions par mois ou ça serait...
Ça pourrait être des tranches de l'ordre de, d'une quinzaine, vingtaine de millions d'euros.
D'accord.
Donc leur laisser quand même pas mal, quoi, un bon ballon d'oxygène.
Et ensuite, vous, ce que vous faites, c'est que pour ces boîtes cotées, donc ensuite, vous, avec l'argent que vous donnez, donc vous avez comme des actions, et ensuite vous vendez ces actions.
Voilà. À un moment donné, il va bien falloir qu'on se rembourse. Comme évidemment, on prend pas un risque de contrepartie sur le remboursement de cette dette-là, si on peut appeler ça de la dette, ce financement, on va récupérer les actions. Donc est-ce qu'on va les récupérer par émission d'actions nouvelles ou on va les récupérer par conversion d'obligations? Tous les montages sont envisageables, mais à un moment donné, oui, on va récupérer des actions et notre objectif, ça va être de les revendre dans le marché sans impacter le cours de bourse pour que nos intérêts soient bien alignés avec la société et les actionnaires historiques et pour pouvoir, nous, récupérer en fait l'argent, se rembourser du financement qu'on a avancé à la société.
Alors, vous disiez, pour finir, il faut lever des fonds quand on n'en a pas besoin.
Alors oui, c'est un grand principe financier, c'est que quand on a, il faut avoir suffisamment de confort, notamment dans ces secteurs qui sont très risqués, pour avoir une visibilité au-delà de 12 mois sur son financement. Et dans ce secteur-là, notamment les bio et medtech, on parle de cash burn, on fait que cramer du cash, du financement tous les mois pour payer le recrutement des patients dans les phases cliniques ou autres. Donc il faut qu'on ait une visibilité assez longue pour être tranquille. Et donc autant lever du cash ou en tout cas sécuriser des lignes de financement additionnelles suffisamment en amont et pas dans la précipitation, parce qu'on sait que dès que c'est fait dans l'urgence, ça coûte forcément plus cher. Et il faut pas bâcler ce genre de décision. Et il faut mieux avoir plusieurs cordes à son arc et avoir le choix dans les différentes solutions de financement qui peuvent s'offrir à ce type d'industrie.
Frédéric Sutterler, merci.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes partenaire chez Alpha Blue Ocean. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine.
Check-up Santé, en partenariat avec GIFAR, réseau de 1400 pharmacies partout en France. BFM Business Partenaire.
Update, le rendez-vous de la transformation professionnelle.
Bienvenue dans cet épisode de notre série consacrée à la formation professionnelle. Aujourd'hui, direction Marseille, à la rencontre de Damien Canon. Après avoir sillonné les routes de France avec les Compagnons du Devoir durant 5 ans, ce menuisier a décidé il y a quelques années de se former en management pour entrevoir de nouvelles opportunités. Aujourd'hui, il dirige ATEC, une société à Aubagne de 30 salariés.
Ce qui est génial pour un menuisier dans le sud ou un menuisier agenceur comme nous, c'est qu'on travaille sur terre et sur la mer. Ce côté terre, mer, montagne dans la région qui se traduit dans ce qu'on fait au quotidien, c'est génial. La chance qu'on a, c'est de pouvoir travailler dans des lieux emblématiques marseillais comme les docks, comme la Corniche.